Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet.
Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes, spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes, mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation.
Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 11, rencontre avec Olivier Ibarra du Pôle fruitier de Bretagne. Aujourd'hui, on est avec Olivier Ibarra du Pôle fruitier de Bretagne. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors, le Pôle fruitier de Bretagne, va falloir que tu nous expliques ce que c'est. Avant, est-ce que tu peux te présenter et ensuite présenter le Pôle fruitier, s'il te plaît.
D'accord. Alors moi, c'est Olivier Ibarra et je suis le responsable du Pôle fruitier de Bretagne.
Et responsable, ça veut dire quoi? Tu fais quoi?
Responsable, c'est-à-dire que le Pôle fruitier de Bretagne, c'est une association, le statut associatif, loi 1901, et est doté d'un salarié permanent, donc c'est moi. Et donc du coup, mes missions vont du secrétariat à la direction, au chargé de com, à tout ce qu'on peut imaginer.
Ok, donc c'est un métier complet.
Très complet.
Très diversifié.
Oui, avec les pieds dehors et la tête devant un ordinateur.
D'accord, ça doit pas être tous les jours facile. En tout cas, ton métier est diversifié et ça tombe bien puisque tu travailles de manière particulière sur le sujet qui intéresse ce podcast, c'est-à-dire la biodiversité cultivée. Alors, sur quelle biodiversité cultivée tu travailles, ou en tout cas, à quelle biodiversité cultivée s'intéresse le pôle fruitier? Est-ce que tu peux nous parler de ça et des particularités qu'elle a vis-à-vis des autres espèces agricoles dont on a l'habitude de parler dans ce podcast?
D'accord. Alors, le pôle fruitier de Bretagne, c'est un peu le centre de ressources génétiques et culturelles sur tout ce qui est diversité fruitière en Bretagne.
Ok, voilà. Rien que ça.
Oui, oui, oui. Et j'insisterai toujours sur l'aspect génétique, mais aussi l'aspect culturel. C'est très important pour nous, pour les variétés de fruits. Donc,
d'accord.
On s'intéresse à tous les fruits, quelle que soit l'espèce, surtout les fruits et les fruits à pépins, les fruits à noyaux. Les fruits à coque, châtaigniers, noisettes, on fait aussi. En tout cas, l'objet associatif le permet. Mais on sera essentiellement concerné par les pommes, les poires, et plus anecdotiquement, par tout ce qui est prunus, cerises, pruniers, abricotiers, etc.
Ok. Et quand tu as parlé de conservation, est-ce qu'on est entre guillemets que sur des variétés anciennes? Dans vos activités, ou est-ce que vous faites aussi, vous traitez la biodiversité cultivée dans le sens de la création?
C'est-à-dire que cette biodiversité, elle est en mouvement perpétuel. Donc, on a d'ailleurs mis dans nos statuts que notre objet associatif était l'ensemble des variétés présentes et à venir en Bretagne.
Okay.
Ce qui fait que je pense que la durée de notre association sera vraiment illimitée. Néanmoins, cette création de Pôle fruitier de Bretagne, elle est quand même issue d'un souci de conservation de la biodiversité existante face à un déclin assez rapide de cette diversité fruitière bretonne.
D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur le déclin de cette diversité? Je ne sais pas si tu as des chiffres d'un nombre de variétés qu'il y avait à une époque, ou même d'individus, d'arbres qu'il y avait à une époque, aujourd'hui où ça en est, comment est-ce qu'on s'en est rendu compte que ça décline, et à la fin, et pourquoi c'est important de la garder?
Oui, alors c'est une histoire somme toute classique sur l'érosion de la biodiversité cultivée telle qu'on la rencontre chez les céréales, chez les légumes, qui est lié à l'évolution de nos systèmes agricoles à partir des années 50. J'ai pas de chiffres principalement. En général, on utilise des images, des vues aériennes des années 50 dans nos régions, comparées à des vues aériennes actuelles, où au-delà de la disparition du bocage, on s'aperçoit qu'à l'époque, il y avait énormément de fruitiers, on sait aujourd'hui que c'était des pommiers et des poiriers, qui étaient complantés dans les champs. Alors qu'aujourd'hui, ils sont surtout concentrés dans des zones spécialisés qu'on appelle des vergers. La notion de verger n'était pas forcément très existante au début du siècle dernier, au milieu du siècle dernier, puisqu'ils étaient complantés de prés, de légumes, selon la région où on était.
C'était de l'agroforesterie, en fait.
C'est une sorte d'agroforesterie qui ne portait pas son nom.
C'est ça.
Mais qui était très efficace, effectivement, pour avoir deux productions là-dessus. Et par moment, économiquement, les fruitiers rapportaient plus que les céréales ou que l'élevage. Et à d'autres moments, c'était le contraire. Et avec, non pas la mécanisation, parce qu'elle existait déjà, et l'espacement de ces arbres était adapté, en fait, à une mécanisation avec traction animale. C'est lorsqu'on est passé à la motorisation avec une mécanisation encore plus large, qu'on a essayé de rationaliser tout ça en disant les pommiers, vous allez d'un côté et les céréales, vous allez de l'autre. Donc il y a eu des campagnes d'arrachage, parfois subventionnées, et ça a été un premier déclin de la biodiversité. Donc on pourra revenir tout à l'heure sur comment elle s'est créée, cette biodiversité cultivée de fruitiers.
C'est intéressant ce que tu dis, que vous avez regardé ça, vous voyez le déclin de cette biodiversité par vue aérienne. En fait, je me suis amusée à regarder autour de chez moi, donc autour de Rennes, les vues aériennes sur Géoportail avant les années 50. Mmh. Et en effet, on voit vraiment que la plupart des champs, au moins la moitié des champs, sont comme pixelisés avec plein d'arbres. Et à partir des années 60, en fait, il n'y a plus rien. Je trouve ça très marquant et on la voyait, la biodiversité. Oui. Et on voyait ce que tu as expliqué, la complémentarité des espèces au sein d'un même champ,
oui.
Alors qu'après, on a tout séparé.
Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas le nom des variétés par vue aérienne, donc c'est une idée de la diversité. Ce qu'il faut noter, c'est que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une implantation aléatoire de ces pommiers. On a l'impression qu'ils sont dispersés, mais si on regarde plus attentivement, il y a vraiment des alignements qui étaient très cohérents par rapport au système de culture qui était adapté.
Est-ce que tu aurais des exemples pour nous expliquer ça? Pour les auditeurs, si vous avez écouté l'épisode numéro 7 de notre podcast sur Mathilde Simoneau, elle a un verger avec 53 variétés et plusieurs individus par variété de pommes. Et en fait, elle les a plantés en fonction des dates de floraison, etc., pour faciliter le ramassage. Est-ce que c'est ça dont tu nous parles là, ou alors est-ce que c'est autre chose, l'arrangement spatial? Est-ce que tu peux nous donner des exemples?
Je pense que c'est autre chose, c'est purement pragmatique. C'est un espacement souvent de 20 mètres entre deux rangées, ce qui correspond à la largeur de travail du matériel.
Okay.
Et voilà, et sur le rang, on a au moins 10 mètres, parce que c'était des arbres cultivés en haute tige. J'ai vu que ça a été expliqué dans un autre podcast.
Donc alors,
allez-y si vous voulez savoir ce que c'est le haute tige. L'essentiel des arbres était cultivé avec cet espacement-là de, en gros, un arbre tous les 10 mètres.
C'est sur le rang.
Sur le rang, et un espacement de 15 à 20 mètres. Voilà à quoi ressemblait le paysage des années 50 là-dessus. Et ça, c'était cette évolution des systèmes agraires. Ça a été le premier acte, un peu, de la diminution de ces arbres. Et par extension, des variétés qui étaient associées.
Okay.
En parallèle, il y a eu deux mouvements. Il y a eu un premier mouvement, à la limite logique, de l'Institut français des productions cidricoles. Des organismes locaux, régionaux et nationaux qui étaient chargés de réduire cette diversité pour rationaliser aussi les variétés qu'on allait implanter.
Ah oui, donc on choisissait les variétés qui seraient les plus productives.
Exactement.
C'est ça ?
Donc on retrouve des préconisations 1936, 1947. Voici les variétés qui sont retirées de la liste des fruits et des variétés recommandées. Voici celles qui les réintègrent, etc. Pour des raisons de maladie ou pour des raisons de rationalité économique, etc. Donc au final, on a l'impression qu'il reste quand même une grande diversité, parce qu'on est parti d'une extraordinaire diversité. Donc on retrouve à 40, 50, 60, voire 100 variétés, on trouve que c'est bien. Mais en fait, c'est que 1% ou 10% de
ce qu'il y avait.
Du potentiel.
Ok.
Donc deuxième acte, troisième acte, qui a été apparemment le déclencheur de beaucoup d'associations locales qui se sont intéressées à la conservation de cette biodiversité, c'est l'ouragan de 1987.
Qu'est-ce qui s'est passé en 1987?
Et ben d'après les locaux, ceux qui étaient présents, il y a une énorme tempête qui a balayé la Bretagne et qui a mis par terre les derniers vergers qui existaient, si on peut dire ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu aussi, il me semble, alors c'est une simple hypothèse, mais émerger des associations pomologiques chargées de dire il faut sauver cette biodiversité, il faut la préserver coûte que coûte là-dessus, et que des associations locales se sont créées de droite de gauche, dont une très célèbre à Dinan qui sont l'association des Mordus de la Pomme.
Ok, dont on a parlé aussi dans le podcast de Mathilde, sur Mathilde, et d'ailleurs tu fais bien de parler de Dinan puisque Le pôle fruitier est basé à Dinan, plus précisément dans le village de Léon, au pied de l'ancien château fort. Donc voilà, nous sommes à Dinan aujourd'hui avec toi.
Oui, tout à fait.
Donc 1987, finalement, cette tempête, elle a été à la fois un objet, entre guillemets, enfin, ou un élément de déclin parce que ça a mis par terre des vieux arbres, et en même temps un élément de réveil pour plein de gens qui se sont dit « Ouh là là, ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver ce qui reste ».
Oui.
On pourrait le dire comme ça.
Oui, oui, oui. Ça a été un mouvement de bénévoles.
Ouais,
c'était pas un mouvement paysan, forcément. C'était essentiellement des gens qui ont toujours connu les variétés locales, les variétés de leur enfance, et qui trouvaient dommage de voir disparaître ces variétés parce qu'elles n'étaient plus utilisées dans l'industrie cidricole, notamment. Donc, progressivement délaissées. C'est comme ça que... On est passé, d'après ce que j'ai compris, d'un cidre qui était produit trois fois, un cidre de moisson, de début de saison, un cidre de pleine saison en octobre-novembre, et puis un cidre tardif qui se brassait souvent en janvier. Donc à chaque fois avec des variétés à maturité de plus en plus tardive, ce qui permettait d'avoir du cidre renouvelé toute l'année.
D'accord.
Et finalement, la rationalisation industrielle a fait que c'était plus intéressant d'avoir une seule gamme de plein de variétés, mais des variétés qui soient intermédiaires et qui permettent de faire une seule fois du cidre, de le mettre en bouteille et après d'écouler, plutôt que fabriquer trois fois
du cidre.
Trois processus. Donc ça s'explique d'un point de vue de rationalité
économique.
Ce qui fait que les variétés qui étaient précoces et celles qui étaient tardives n'étaient plus intéressées et intéressantes, et du coup ces entreprises n'allaient plus collecter ces pommes-là chez les paysans qui les fabriquaient, donc
qu'on les abandonne.
Naturellement, on les abandonne, on les renouvelle pas. Les variétés fruitières, elles se renouvellent uniquement par greffage.
Oui, alors le greffage, qu'est-ce que c'est?
Ah, faut expliquer le greffage.
J'ai encore plein de questions.
Oui, 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 oui.
Le greffage.
Oui. Le principe...
Juste parce qu'on parle souvent de semences, nous. Mais alors, sur les fruitiers, il y a des semences, mais ce n'est pas ça le principal objet de multiplication et de sauvegarde et de pérennisation de l'espèce.
Vrai. C'est un peu, on est un peu différent des céréales parce que...
Tout petit peu.
Et des légumes. C'est je pense qu'on ne peut pas maîtriser la pollinisation des floraisons d'arbres fruitiers parce qu'il y a des fleurs partout.
En tout cas, c'est difficile.
Et la plupart de ces fruitiers-là, à pépins et à noyaux, se multiplient, se croisent. Donc, dès qu'on a du pépin, on a un matériel génétique différent.
Alors, matériel génétique, on a
on a
un agencement...
La mère qui a croisé le père, et donc on a la moitié du matériel génétique de l'un et la moitié de l'autre. Donc, ça fait un joli mélange. On en est, nous, le résultat en tant qu'humain. On ne ressemble pas tout à fait à nos parents, mais on a quand même des traits de caractère.
C'est ça.
Donc c'est potentiellement, comme on le fait en création variétale, une nouvelle variété intéressante, mais c'est aussi plus la variété d'origine.
Qu'on connaît,
oui.
Et avec laquelle on produit. Et, qu'on
et qui, de... qui nous intéresse parfois depuis les années 1500, voire plus en amont. Il y a des variétés qui se transmettent comme ça. Et la seule manière de conserver cette intégrité des caractères, c'est par la multiplication végétative, qui est un autre mot compliqué, qu'on appelle pour nous le greffage. Le greffage consistant à prélever un rameau de l'année, une pousse de l'année, et à le transmettre sur un nouvel arbre qui prendra le nom de porte-greffe, puisqu'il portera la greffe.
Ouais.
Et comme il n'y a pas de mélange des gènes de la partie porte-greffe à la partie greffon, la partie aérienne du coup qui va se développer va porter les fruits d'origine.
Et comme le greffon c'est une branche de l'année, tu disais,
oui,
de 2 ans, c'est comme si un très vieil arbre, par exemple un arbre qui a 80-100 ans, on prend un greffon de l'année, c'est comme si il redevenait jeune, je sais pas comment dire. Ça permet de prolonger entre guillemets la vie d'un arbre en créant un individu fils, mais rajeuni.
On peut dire ça. Pommier de plein vent, naturellement, peut vivre jusqu'à 100 ans.
Ok.
Sans problème. On a aujourd'hui encore vivant des pommiers dont on a la date de plantation de 1936, et qui sont toujours là, bien sûr. Et chaque année, ils produisent des nouvelles pousses. Donc, chaque année, ils ont des pousses de 1 an. Donc, ils sont à la fois très vieux,
Et à la fois, ils ont des parties très jeunes qu'on récupère pour les prolonger sur d'autres individus.
Sur des jeunes porte-greffes et qui peuvent repartir pour 90 ans.
Ça fait des nouveaux arbres.
Des nouveaux arbres qui portent la même variété, avec parfois des petites mutations, des petites variations. Mais on a des variétés connues depuis... Bah, par exemple, ici, on en a une qui est connue depuis 1700... on a des traces de 1750.
Comment elle s'appelle, celle que tu as sous les yeux?
Alors, elle a plusieurs noms.
Elle a plusieurs noms. Oui. C'est compliqué, ça. Comment tu fais pour t'y retrouver? Savoir quelle variété c'est, quand tu vois un arbre, quel nom elle a, est-ce qu'elle a plusieurs noms? Enfin, voilà...
C'est une variété qui s'appelle Revers pour les Normands, mais qui en réalité est la variété Rouget de Dol 3 quarts pour les Bretons.
D'accord, alors ça, c'est pas un bon exemple parce que c'est juste un exemple de bisbille entre les Bretons et les Normands.
Ça pourrait, mais en fait on peut raccrocher les wagons.
Raconte-moi comment on raccroche les wagons.
Déjà on sait que génétiquement elles ont le même profil.
Ça a été analysé, donc génétiquement, repréciser, c'est... Si on sait qu'elles ont le même profil génétique, on est allé décoder un petit peu l'ADN ou des parties de l'ADN les comparer et voir qu'en fait...
Si elles avaient le même profil ou pas le même profil.
Ok.
Voilà, ça ne nous donne pas un nom de variété.
Mais ça nous donne un enchaînement
de... Par comparaison, si plusieurs échantillons ont le même profil et qu'ils ont souvent le même nom...
C'est la même variété.
Voilà. Donc là, on sait que la Revers de Normandie a le même profil génétique que la Rouget de Dol... de Dol de Bretagne, de Bretagne. Et alors, qui est né avant l'autre? Eh bien, pour nous, c'est la Rouget de Dol. Pourquoi? Ça, c'est une anecdote très intéressante. C'est qu'en fait, Revers le nom vient de François Revers, qui a été nommé curé de Conteville dans le Marais-Vernier, donc en Normandie. Il a été nommé en 1785. Et ce monsieur est né à Dol de Bretagne en 1753.
Donc il aurait emmené des pommiers avec lui.
Comme ça se faisait généralement à l'époque, parce que ces variétés ont le bon goût de pouvoir se transporter facilement avec ses greffons d'un an.
Ouais.
Il aurait transporté la Rouget de Dol, un greffon de Rouget de Dol, quand il est parti, quand il a été nommé en Normandie. Cette variété a été implantée, et comme beaucoup de variétés qui étaient dans les communautés religieuses, elles étaient considérées comme bonnes ou comme excellentes, donc elles étaient souvent chippées par les paysans.
D'accord.
Pour les mettre dans leur propre verger, etc. Et donc, cette variété Revers, aujourd'hui, est très répandue, et on n'a gardé que ce nom. Et il est fort peu probable que ce soit l'abbé Revers qui soit revenu à Dol de Bretagne apporter une variété qui serait la Rouget de Dol. D'autant que dans le Marais de Dol, on a plusieurs Rouget de Dol qui sont on sait aujourd'hui, des enfants du Rouget de Dol originel, par croisement, etc. Donc, c'est des petites anecdotes géographiques. Je ne sais même pas pourquoi on parlait de ça.
Pour expliquer le greffage.
Le greffage.
Voilà.
D'accord.
Mais ça m'amène une autre question, c'est qu'on a parlé de beaucoup de diversité, et peut-être que avant que tu nous expliques ce que vous faites au pôle fruitier pour conserver cette diversité, et puis à quel point c'est complexe ou simple, tu vas nous dire. Voilà, avant ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer ou nous raconter un petit peu comment cette diversité des pommiers, des poiriers, en tout cas des fruitiers en Bretagne, elle s'est créée?
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout encore parlé de ça.
Non. Alors tu nous as donné un petit peu un exemple en disant que dans le Marais de Dol, il y avait plusieurs types de rougets parce que ça avait évolué un peu. Oui. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, parce que depuis le début, c'est vrai qu'on n'a pas dit de quoi on parlait. En fait, avec quelle diversité je joue.
Oui, c'est ça. Quelle est cette diversité qui a disparu?
Et alors, on a un problème en Bretagne, c'est qu'on a une très grande diversité de variétés fruitières. Et là, quand je dis très grande, je parle de plusieurs milliers de variétés différentes.
Ah ouais, plusieurs milliers quand même.
Oui. C'est pas plusieurs centaines, c'est...
Et quand tu dis plusieurs milliers, c'est quand même un chiffre, alors que tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas de chiffre.
Oui, c'est un chiffre qui n'est pas précis.
D'accord, c'est un ordre de grandeur.
J'ai pas dit 1492,
okay.
J'ai dit plusieurs milliers parce qu'on en a en stock dans les vergers conservatoires de nombreuses qui sont différentes, qui sont attestées différentes. Mais c'est un peu compliqué.
D'accord.
C'est un peu compliqué à expliquer parce que je vous ai dit tout à l'heure que le pôle fruitier de Bretagne, c'était finalement le centre de ressources, le conservatoire régional. Or, on a la particularité, on n'a pas de verger. En fait, on se repose sur, et c'est ça l'origine du pôle fruitier de Bretagne, sur le réseau des vergers conservatoires qui ont été créés au fil du temps par ces associations locales que sont les Mordus de la Pomme, Arbor et Pomme, les sociétés d'horticulture du Pays de Redon, Avaloup-Labennec, enfin toutes ces structures locales qui, sans attendre qu'il y ait un conservatoire régional, ont localement conservé cette diversité. ça n'explique pas pourquoi on se retrouve avec autant de variétés différentes.
Et alors, qu'est-ce qui expliquerait qu'on se retrouverait avec avec toute cette diversité
et surtout sur l'aspect pomme et poire. C'est là, si on dit qu'il y a 3000 variétés, on peut considérer qu'il y a au moins 2000 à 2500 variétés de pommes, 300 à 400 de poires, et le reste étant des variétés, quelques dizaines en cerises, en prunes, etc.
D'accord.
Et donc, parmi les pommes, c'est essentiellement des pommes à cidre, parce que la Bretagne a une riche et longue histoire cidricole, avec des cidres qui étaient paysans. Et là, on commence à s'approcher de pourquoi on a une diversité de variétés cidricoles. C'est parce qu'on a on avait une énorme diversité de paysans.
Et de terroirs, peut-être.
Et de terroirs.
Ah, ouais.
Mais c'est aussi, la diversité, c'est une affaire de goût.
Oui.
C'est pas qu'une affaire de résistance aux maladies ou de choses comme ça.
C'est une affaire d'interaction, quand même, la diversité.
C'est une affaire d'interaction, mais qui tous les goûts sont dans la nature.
Exact.
Et quand on parle d'un produit qui se consomme comme le cidre, chaque région avait un peu sa spécificité et son intérêt. Il y avait des cidres...
Sa préférence aussi.
Oui. Il y avait des histoires de goût, de préférence culinaire. Il y avait des histoires de praticité, puisqu'il y avait des cidres qui commençaient à voyager par bateau. Donc, probablement qu'il fallait des cidres qui soient riches en tanins pour pouvoir être conservés parce qu'ils allaient être ballottés. D'où, en Cornouaille notamment, beaucoup de variétés très amères.
D'accord.
Riches en tanins, donc, etc. On n'a pas encore tout à fait notre diversité. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut imaginer que dans les années 1900, jusqu'aux années 1950, il y avait une communauté paysanne extraordinaire. Mmh. Les fermes faisaient 3 à 4 hectares maximum. Donc tout le monde faisait son cidre à la ferme. C'était la boisson principale. On en consommait plusieurs dizaines de litres par personne et par an, voire plusieurs centaines de litres. C'était la boisson principale. Donc chacun faisait son cidre. Et chacun mélangeait, le cidre ça se fait avec plusieurs types de variétés, des variétés douces, des variétés amères, des variétés acides. Et c'est le mélange de ça, c'est ce qu'on appelle le pommage, qui va faire qu'on a notre cru local qui nous intéresse, plutôt acidulé à Rennes, plutôt amertumé à Fouesnant, etc., etc.
En fait c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire que là tu nous parles quelque part de l'assemblage, mm-hmm. avec les différents cépages, et en plus tu nous parles de terroir, enfin, voilà, comme le vin, avec les appellations qui ont leurs caractéristiques selon le terroir.
Mais complètement.
Ok.
D'ailleurs, au passage, c'est ce qui a permis à la région de Fouesnant de faire une des rares AOP en termes de cidre. Parce qu'il y a une indication géographique protégée, donc IGP, qui concerne l'ensemble du cidre produit en Bretagne et en Loire-Atlantique.
D'accord.
Ça s'appelle cidre de Bretagne. Et pour aller un peu plus loin en qualité et en typicité, il y a une AOP, donc appellation d'origine protégée, cidre de Cornouailles, qui est sur la région Sud-Finistère.
D'accord.
Principalement. Avec une gamme de variétés un peu
spécifique. Et une typicité de goût, j'imagine. Mm-hmm.
Voilà. Alors comment nos pomologues, qui sont ceux qui étudient les fruits...
La pomologie, donc c'est pas l'étude des pommes.
Non.
Tu as dit les fruits, c'est pour
oui.
ça, je me dis, on parle de pommes.
J'imagine qu'on l'écrirait avec deux M spontanément.
Et en fait,
comme
non.
Et en fait, non. Pomologie, c'est avec un seul M.
C'est une question pour le jeu des 1000 euros.
Exactement.
Ça. Comment écrivez-vous pomologie?
Exactement. Et la définition officielle, c'est la partie de l'arboriculture fruitière qui traite des fruits, quelle que soit l'espèce.
Ok, donc c'est vraiment très clair.
Mm-hmm. Étude, description, identification et classification.
D'accord.
Donc
tu nous parlais des pomologues.
Je parle de pomologues, donc ceux qui étudient ces fruits. Lorsqu'ils font du collectage, c'est-à-dire aller dans la campagne, discuter avec les paysans, les fils de paysans, les arrière-petits-fils de paysans, quelles variétés ils utilisent, où ils utilisaient, etc., ils se retrouvent parfois dans une commune à dénombrer 60 variétés. Et la commune suivante, ils vont en trouver 60 aussi. Mais par contre, il y en a 5 ou 6 qu'ils vont retrouver que dans une commune. C'est dire la proximité de la sélection qui a été faite. Et on explique ça dans l'idée que les goûts ont toujours évolué. Et les vergers acides, c'est des vergers qui se renouvellent régulièrement. On n'attend pas qu'un arbre soit mort pour planter, parce qu'on sait que la mise en production est assez longue.
Ouais, c'est pas comme les semences où tu récoltes une année, tu peux ressemer l'année d'après.
Voilà, et d'ailleurs si on partait d'un semis de pépins de pommes, il faudrait attendre quelques années, bien plus qu'au moment de la greffe, pour avoir de la production. Donc il y avait une manière routinière de l'achat de porte-greffes ou du semis pour créer ses propres porte-greffes. Ça part de pépins. Généralement, les pépins, on les trouvait dans le mar suite au pressage du cidre. On étendait le mar quelque part. Les pépins pouvaient germer, pousser. Et ça servait de banque de porte-greffe.
Il n'y avait pas de variété spécifique pour faire des
Alors, au fil du temps, si, quand il a fallu rationaliser.
Mais au début, pas forcément. Non. D'accord.
Et c'est pour ça que le porte-greffe qu'on appelle franc, ou autrement appelé franc de pépin, c'est du pépin de pomme, quelle qu'elle soit. On regarde ce qui pousse. Et là, ils faisaient sur le tas une sélection de, forcément, celui qui poussait bien droit et bien vite, ils allaient le prendre pour faire un bon porte-greffe, plutôt que celui qui poussait de manière tordue.
Ok.
Donc, c'était une sélection intuitive. Selon un critère de pouce de porte-greffe.
Donc ça, c'est pour la sélection des porte-greffes.
C'était pour choisir son porte-greffe pour pouvoir renouveler son verger, à moindre
D'accord.
coût. Parfois, soit le porte-greffe n'avait pas le temps d'être greffé, soit on laissait quand même des arbres pousser sur le tas de mare, et ces arbres, au bout d'un moment, viennent à fruit. Souvent, le fruit, on le regardait, on le goûtait, bon, il n'était pas intéressant, on le rejetait, ça ferait un bon porte-greffe. Mais parfois, et ça a dû sans doute être le cas avec les rougets de dole, on trouvait la pomme qui ressemblait au rouget de dole, mais elle était un peu plus grosse.
Un peu plus sucrée, ou un peu plus tardive.
Ouais. Ou avec un poire plus érigé, parce que le rouget de dole, il a un poire avec beaucoup de branches qui se croisent. Des fois, c'est un peu embêtant au niveau
Ouais, le poire d'un arbre, c'est...
C'est sa silhouette.
Sa silhouette, si les branches sont plutôt tombantes ou redressées.
Voilà.
Ou
il peut être très érigé, avec beaucoup de variétés qui portent le nom de montant haut, montant l'air.
Ok.
On était pragmatique dans l'appellation des variétés.
C'est ça.
Et des porcs parfois beaucoup plus pleureurs, qu'on appelait parapluie ou chapeau rabattu. Et les pomologues disent chapeau rabattu est encore arrivé ici. La variété devait être quand même assez bonne pour qu'on conserve quand même cet arbre, malgré sa silhouette.
D'accord, parce que c'était pas une bonne silhouette.
C'est absolument pas pratique quand les branches sont très retombantes et touchent le sol pour cultiver autour.
Et même aussi pour que les animaux soient là, parce que dans les champs que tu décrivais tout à l'heure, il y avait aussi parfois des animaux.
Quand c'était des prés et des prés vergers,
ouais.
Oui. Mais on n'est pas en Normandie, donc en fait, ici, il y avait beaucoup de cultures.
Ouais.
Du chou, du sarrasin.
Donc tout ce que tu as décrit là, le fait que les porte-greffes, ils viennent...
Ils viennent à fruits. C'est là qu'il y avait une sorte de sélection sur la base du goût. Ça n'en fait pas pour autant une variété. C'est important pour nous, parce que sinon, n'importe quel pépin serait une nouvelle variété.
Oui. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une variété
pour nous?
J'allais dire en pomologie. Mmh. Pas du tout, si, on peut dire ça comme ça.
Oui.
Dans le domaine de la pomologie.
Pour les pomologues.
Qu'est-ce qui fait une variété?
En tout cas, pour les pomologues bretons.
Oui, parlons des pomologues bretons.
Pour ne pas me pêcher avec le reste du réseau.
Voilà, vu qu'on est en Bretagne.
Même s'il y a une association pomologique nationale à laquelle, qui fédère les acteurs régionaux. On est d'accord, un pépin, sachant qu'il y a eu croisement du père et de la mère, c'est une nouvelle entité génétique. Ça deviendra une variété pour nous si ce pépin qui donne un fruit commence à être greffé par la personne qui l'a trouvé plusieurs fois, que, par exemple, les voisins, trouvant cette variété intéressante, demandent officiellement ou non, en général officiellement pour avoir le nom, demandent à avoir un greffon, la multiplient chez eux, et avec les années passant, là on parle quand même de pas de temps de plusieurs dizaines d'années, voire siècles, lorsqu'on fait un collectage, on arrive sur un secteur géographique donné à trouver, par exemple, trois personnes qui ne se connaissent pas, qui vont donner le même nom pour la variété qu'on va leur présenter et qui est dans leur champ. Donc là, c'est pour ça que j'insistais sur génétique et culturelle.
C'est
qu'il faut encore qu'il y ait cette mémoire. Si demain je trouve un arbre en un seul exemplaire avec un fruit qui est différent des autres, mais que personne ne peut m'en parler et j'arrive pas à le trouver ailleurs, on pourrait quasiment dire que cette variété, elle est perdue. Alors, c'est contradictoire avec ce qu'on est en train de faire sur les poiriers. Et ça fera l'objet peut-être d'une autre session. Parce que sinon,
on va voir si tu peux m'en parler tout à l'heure.
Mais voilà le principe pour nous de variété. Donc, c'est pour ça que dans les cahiers des pomologues, on trouve souvent une aire de répartition. Là, j'ai sous les yeux la poire maliée, qui est une variété du pays de Saint-Malo. Et le pomologue a dessiné... assurer les communes dans lesquelles il a trouvé ce poirier.
Et comme il y en a plusieurs, là, on peut vraiment dire que c'est une variété.
Que la variété existe encore.
Ok.
Alors, elle n'est pas, pour nous, elle n'est pas sauvée, elle n'est pas conservée. Hein, notre rôle, ça va être de s'assurer que cette variété, elle existe dans des vergers conservatoires.
Justement, tu as parlé de votre rôle et tu fais le lien avec les vergers conservatoires. Qu'est-ce que vous faites au pôle fruitier de Bretagne? Tu as déjà parlé tout à l'heure, je pense, de vergers conservatoires. Mmh. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, j'ai effectivement dit qu'on n'avait pas de verger conservatoire et pourtant, on avait un verger conservatoire. Alors, le rôle du pôle fruitier de Bretagne, c'est de venir en appui et en sécurisation des travaux des associations pomologiques locales qui, elles, ont des vergers conservatoires. Donc finalement, je suis amené à piloter un énorme verger virtuel qui est composé d'environ 200 vergers qui vont de 10 à 500 pieds et qui est réparti sur toute la Bretagne.
D'accord. Donc, et qui sont des, entre guillemets, détenus par qui ces vergers ?
Alors, c'est assez divers. C'est ce qui permet, nous, de les hiérarchiser en termes de sûreté. Donc, c'est souvent un foncier public. Ça peut être une commune qui a mis à disposition un terrain de l'association pour y mettre un verger conservatoire. Ça peut être un département sur un espace naturel sensible, là où on sait que le foncier ne va pas bouger du jour au lendemain. Parce que la problématique, c'est qu'une fois que ces arbres sont là, si les arbres sont rasés et qu'on ne la prend pas, on peut potentiellement perdre des variétés. C'est arrivé au Mordu de la Pomme dans les années 2000, avec un verger qui a subi un agrandissement de parking.
Et hop, plus de vergers conservatoires.
Plus de vergers conservatoires. Enfin, si, ils les ont déterrés, ils ont appelé au mois d'août les...
Ah oui, c'est...
L'association, quand même, c'est déjà un plus. Sauf que c'était trop tard, les arbres étaient secs. Et l'association Les Mordus de la Pomme a perdu au moins deux variétés qu'elle avait collectées il y a une vingtaine d'années et qu'elle avait mis qu'en un seul exemplaire, là. Et donc là, il y a des variétés qui sont perdues.
Ok. Et toi, avec la vision globale de ce réseau, tu peux t'assurer, entre guillemets, enfin, le pôle fruitier peut justement s'assurer
Exactement.
Du fait qu'une variété, elle n'est pas que dans un seul conservatoire, et tu peux un petit peu gérer, entre guillemets, les flux des variétés pour être sûr qu'on conserve bien une bonne diversité assurer l'avenir de toute cette biodiversité cultivée.
C'est exactement ça. C'est un peu la mission supplémentaire de ces associations locales. C'est d'arriver à avoir une information régionale pour pouvoir hiérarchiser et prioriser des variétés qui seraient sous-représentées. Aujourd'hui, il est clair que la rougette d'Ol, rainette d'Armorique, fil jaune, douce moine, ce sont pas des variétés qui sont menacées. Par contre, on a des variétés qui sont très peu connues, qui sont, comme j'appelle, orphelines, et on s'est aperçu avec un des travaux récents, parce qu'il s'agit de compiler les listes des variétés de chaque structure, de faire travailler ça, de faire travailler un ordinateur, parce qu'on parle de... Là, on est sur 10 à 15 000, 15 000 arbres.
Ah.
Et un ordinateur ne sait pas différencier si Rainette avec un T et Rainette avec deux T, c'est la même variété, ou, par exemple. Donc, il y a eu tout un travail de trouver les synonymes. On est dans une région bretonne avec plusieurs bretons, donc plusieurs orthographes. Donc, malgré tout, on a réduit ça et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a entre 40 et 50% des variétés conservées en Bretagne qui ne le sont qu'en un seul exemplaire à notre connaissance. Et c'est suffisant pour nous pour tirer la sonnette d'alarme et dire il est urgent demain, si on crée des vergers conservatoires, de pouvoir implanter en priorité ces variétés.
Pour les dupliquer et assurer leur pérennité.
Avoir au moins un double de sécurité, et je pense que c'est pas suffisant. Parce que, imaginez le principe, je vais demain prélever un greffon sur un arbre qui est en un seul exemplaire, je vais tenter la greffe, il faut que la greffe réussisse, et il faut qu'entre-temps, je ne me sois pas trompé d'arbre sur lequel j'ai prélevé, parce qu'il n'y a pas le nom dessus, et qu'au moment de greffer, je n'ai pas pris le mauvais greffon. Donc, il faut assurer une traçabilité totale, et j'aurai la réponse, biologiquement parlant, au bout de 5 à 6 ans.
Ah, okay.
Le temps pour l'arbre initial peut être d'avoir un accident. Donc, on essaye d'être très, très, très rigoureux dans nos travaux, en termes de traçabilité. Il y a bien sûr des profils génétiques, mais le profil génétique ne remplacera jamais l'observation du fruit. C'est évident. C'est évident. Donc voilà ma mission et ce qui me préoccupe dans les années à venir, c'est de trouver des terrains souvent des collectivités qui soient prêtes à finalement faire leur part dans la conservation. Parce qu'évidemment, ce n'est pas des pommes à couteau, c'est plutôt des pommes à cidre. Mais on sait qu'on en aura besoin demain. Oui.
Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est pourquoi c'est important de faire tout ça ? Parce qu'il y a aussi de la création variétale moderne qui se fait,
ah, oui.
Alors pourquoi conserver toute cette diversité qui existe alors qu'on peut en créer plein de nouvelles, en plus maintenant avec toutes les techniques de sélection, d'observation génétique, etc.
Alors c'est là qu'il y a un intérêt à faire des fois des profils génétiques, parce qu'on arrive maintenant, enfin pas nous, hein, plutôt les chercheurs, à essayer de tracer un peu la généalogie de certaines variétés, qui a été croisée avec qui, et notamment... On s'aperçoit que la Golden elle-même aurait une parenté avec une très vieille variété française. Donc Golden qui est finalement une vieille variété, parce qu'elle est, je crois qu'elle est née dans les années 1890.
Ah ouais.
Donc on pourrait la considérer comme une vieille variété. On a justement dans les arbres de 1936, il y a un Golden. Donc c'est probablement un des premiers Golden purs, un des premiers greffons qui a été diffusé. Mais elle a eu un grand succès commercial parce qu'elle a un pédoncule long, parce qu'elle a des caractères qui allait parfaitement avec une production de masse. Voilà, elle est très sucrée, elle est malheureusement que sucrée.
D'accord.
Mais ça reste, c'est un peu comme les tomates de plein champ et les tomates sous serre. Mmh,
tout à fait.
Une golden de plein champ a quand même un peu de...
Et quand même assez chouette.
Assez chouette en plein hiver à goûter, bien sûr. Je ne sais plus où j'en étais.
Si, on parlait de l'importance de la diversité. Pourquoi c'est important de conserver cette diversité? Et tu parlais de la golden, justement, on a vu qu'elle est issue sûrement d'une très vieille variété française.
Oui, donc cette golden, on s'aperçoit qu'elle fait partie des 3 ou 4 variétés à partir duquel ont été créées la plupart des variétés modernes. Donc finalement, on s'est servi d'un patrimoine génétique assez pauvre, alors qui est moins pauvre qu'il n'y paraît d'après les dernières analyses, puisqu'on retrouve du génome de la rainette franche, qui est une très 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 vieille variété. Néanmoins, quand on fait une carte de toutes les variétés qui ont été analysées, on s'aperçoit que les variétés à cidre et les variétés à couteau anciennes ont des profils génétiques vraiment différents. Donc il y a encore un potentiel. Néanmoins, je pense que la création variétale peut faire des raccourcis. Les variétés à couteau pour les agriculteurs biologiques sont de bonne qualité. Elles ont cet inconvénient d'avoir une petite pauvreté génétique, mais elles sont fabriquées sélectionnées par des gens... compétents et avec des qualités de mise en production. Là où ces variétés anciennes sont intéressantes aujourd'hui, c'est pour des transformateurs paysans ou pour faire des petites productions de cidre, pour créer des crus de terroir, comme cette petite bouteille de poirée qu'on a devant nous, mais qui est trop chaude pour qu'on la déguste.
Dommage.
Et pour notamment en termes de valorisation économique de ces variétés, j'accompagne des maraîchers notamment qui veulent se démarquer par leur jus de pomme par exemple, et effectivement s'ils peuvent dire voilà, je suis dans le marais de Dole, pour y revenir, je vous fais pas un rouget de Dole, mais par contre je vous ai mis la variété Justine qui a telle et telle histoire, qui a été trouvée, qui a été appelée comme ça. Je trouve que ça a du sens pour des maraîchers dont c'est l'atelier secondaire de pouvoir valoriser ces variétés là sans passer par les variétés sous CUV, donc sous certificat
d'obtention végétale, c'est-à-dire qu'ils sont vendus commercialement.
Mais la question, à quoi ça sert de conserver tout ça? Pour l'instant, à rien.
Comment ça, à rien? C'est un réservoir de diversité pour l'avenir aussi. Et en fait, comme tu disais, beaucoup de variétés modernes aujourd'hui, entre guillemets, ont une grande part du patrimoine génétique de la golden. Ben, ça veut dire que, comme tu l'as dit, il y a une diversité assez pauvre. Et en fait, il y aurait moyen de faire des nouvelles variétés avec plein de diversité, mais cette diversité, il faut y avoir accès, et c'est ce à quoi contribue le fruitier, en fait.
Oui.
C'est pour assurer l'avenir aussi.
Bon, j'ai moins cher, hein. C'est moins cher. Déjà, réexploiter certaines...
Réexploiter
il y a certaines variétés locales qui sont peu connues et qui sont considérées comme d'excellentes pommes à couteau, d'excellentes pommes à compote, etc. Encore faut-il se souvenir que cette variété était utilisée en compote. On a des variétés qui étaient, à l'époque, d'après les pommologues, exportées en Allemagne par Wagon-Lantier, qui cherchaient des variétés spécifiques pour faire de la compote. Il y avait une économie extraordinaire. Aujourd'hui, ça sert à rien. Je l'ai entendu dire, et je le comprends, ça sert à faire du folklore, ça sert à faire des expositions de pommes qui amusent les touristes. Je suis bien sûr pas contre les expositions pommologiques, mais contre ce principe. Parce que la mission du bol fruitier, c'est justement de conserver ce qui ne sert à rien.
Parce que sûrement,
un jour, l'une d'entre elles pourra servir. On en a des exemples récents avec, justement, le changement climatique et des variétés à maturité moyenne, qui aujourd'hui sont plus adaptées ou sont déconnectées des autres variétés à maturité moyenne, ça mûrit trop tôt. Et on sait que certains industriels recherchent maintenant des variétés tardives, à maturité tardive, qu'ils avaient complètement délaissé et que les associations bénévoles ont conservé pendant 30 ans gratuitement et qu'on remet. Donc ça sert. On sait qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent maintenant à la couleur des fleurs et à la couleur des fruits en cherchant des floraisons extra blanches de pommes parce qu'elles sont dépourvues d'anthocyanes et ça pourrait avoir un intérêt dans la recherche médicale.
Ok, donc en fait il y a plein d'intérêts même cachés. Il pourrait y avoir des intérêts qu'on découvrira plus tard, mais si on n'a pas cette diversité, on ne pourra jamais l'utiliser et la valoriser, en tout cas la sublimer, je ne sais pas comment on peut dire, mais...
C'est au-delà de au moins de la juste reconnaissance de tous les bénévoles qui font le travail, c'est d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, cette conservation. En plus, c'est pratique, ça fait du paysage intéressant aussi pour les gens. Ça fait de l'animation locale.
Voilà, ça a plein de vertus.
Il y a tout un savoir-faire associé que les gens ne savent plus faire, alors que tous les enfants du pays savaient greffer, savaient faire ça. Aujourd'hui, on ne sait plus. Donc, il y a un nouvel appel à ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à conserver ces milliers de variétés, au moins en 2 ou 3 exemplaires.
En fait, le travail du pôle fruitier, c'est finalement d'être un... vous faites le même travail au pôle fruitier que les centres de conservation de ressources génétiques. Pour les centres de ressources génétiques, concernant les espèces de grandes cultures ou de potagères, on peut mettre des graines au congélateur. Mmh. Donc quelque part, c'est un moins gros boulot que vous. Alors que pour les fruitiers, on ne peut pas passer par le congélateur. Du coup, il faut tout conserver sur pied. Et ça, c'est un boulot de dingue.
Oui.
Et c'est un peu ça que le pôle fruitier coordonne, sauf que le boulot de terrain, il est réalisé extrêmement majoritairement par des bénévoles.
Ah bah, 99,9%, ce sont de, okay. C'est du travail bénévole, avec bien sûr l'appui des collectivités qui mettent à disposition des terrains,
ouais,
qui s'occupent de la gestion de la partie herbacée. C'est toute une organisation finalement. Donc je pense que si on devait tout rassembler sur un seul verger, ça coûterait extrêmement cher. Ça n'a pas d'intérêt.
Ce serait risqué.
Parce qu'on sait, des pépiniéristes ont testé des variétés de l'Est d'Ille-et-Vilaine dans l'Ouest du Finistère. Ils s'aperçoivent que ce n'est pas exactement les mêmes propriétés. Et c'est normal. Parce que
L'interaction génotype-environnement.
Exactement.
J'ai déjà dû vous en parler dans les premiers épisodes du podcast.
Le phénotype.
Voilà, le phénotype qui est le résultat de l'interaction.
Comment va s'exprimer ce potentiel génétique? Forcément, une pomme en plaine et une pomme en montagne ne va pas s'exprimer pareil.
C'est ça.
Donc il y a des variétés adaptées et ça permet de conseiller localement les choses. Alors, on avait la crainte face à cette diversité qu'on soit qu'en présence de collectionneurs. Mmh. Des gens qui ont une collection aiguë, dès qu'il y a un pédoncule qui est un peu plus petit que l'autre, ou une couleur qui est différente, c'est une nouvelle variété là-dessus. Alors, le travail qu'on a fait avec l'INRAE de réaliser des profils génétiques, et ça les étonne eux-mêmes, c'est de montrer que chaque année, pourtant il y a eu plus de 12 000 à l'échelle nationale, internationale, échantillons qui ont été envoyés, chaque année, on retrouve des profils différents, qui sont des agencements différents, des fois des mêmes allèles du génome, mais ils sont un peu étonnés. Et en Bretagne, j'ai fait le calcul récemment, on a envoyé jusqu'en 2021 environ 260 échantillons, et on en a au moins 115 plus 25, donc 140, qui donnent un profil génétique qui jusqu'à présent n'a pas été retrouvé ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il est unique. Peut-être que demain, une association corse va envoyer un échantillon et on va retrouver le même profil. C'est quand même assez peu probable. Mais en Bretagne, cette diversité, elle est culturelle, mais elle est également génétique. Et donc, il y a là tout un potentiel. Après, pour la sélection, je pense que les sélectionneurs pensent déjà avoir fait le tour. Ce qui peut être intéressant, c'est pour d'autres usages. Je l'ai dit déjà.
Tout à l'heure. Très bien, mais la répétition est la base de la pédagogie. Et tu as parlé là du fait que tu travaillais avec l'INRAE. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en cours que le pôle fruitier a? Parce que donc pour le pôle fruitier, qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'il y a la mission dont tu as parlé de coordination de tous les vergers conservatoires, d'appui aux associations locales. Mmh. Et il y a aussi parfois, selon les projets que vous déposez pour obtenir du financement pour les réaliser, il y a des projets spécifiques pour approfondir des points importants que vous estimez sur la question de la diversité. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en cours?
Complètement. Avant, c'est vrai que parmi les missions de base sont les mêmes que les missions associatives, c'est-à-dire inventorier et conserver. On continue à retrouver des variétés anciennes encore aujourd'hui. Il y a une chose qu'il faut qu'on développe, c'est l'aspect études et expérimentation, pour mieux connaître ces variétés, au-delà des savoirs empiriques paysans, d'essayer de confirmer ces choses par des études un peu plus objectives. Et après, pour aller sur l'axe valorisation, diversification, agricole, réimplantation, etc. Donc ça, c'est les trois piliers indispensables. On ne peut pas conserver pour conserver. Ce serait figé et ce ne serait pas intéressant. Voilà. Et la plus-value, comme on l'a dit, c'est d'assurer la fédération des associations. Et justement, parmi les projets qui animent le pôle fruitier, au-delà d'accompagner les collectivités qui le souhaitent, ou les particuliers, ou les porteurs de projets, c'est de trouver des projets qui intéressent l'ensemble du réseau. Pas un projet qui nous intéresse nous en tant que nous, parce que, encore une fois, les associations pomologues existaient avant le conservatoire régional, donc il n'y a pas de raison que le conservatoire régional s'indépendantise de ça. Donc ma mission, c'est de trouver le plus petit dénominateur commun à ces associations, qui les fédérerait, qui les ferait travailler ensemble. parce qu'elles sont très contentes de travailler ensemble.
D'accord.
Ça, j'en suis convaincu. Elles n'ont pas le temps. Elles sont dans leur coin. Elles ont des choses à faire, suffisamment de choses à faire. Elles ne veulent pas se réunir quand on demande de les réunir. Mais une fois qu'elles sont réunies, elles ne veulent plus partir.
Il y a plein de choses qui...
Il faut les mettre dehors.
Réunion. Chez eux. Okay.
Et donc là, le projet en cours, qui est un très 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 beau projet, c'est tout un travail sur les poiriers qu'on appelle les poiriers vénérables. C'est un projet tout récent, où on a été alerté par l'un de nos bénéficiaires, l'un de nos adhérents, sur le fait qu'il existait sur le territoire des très grands poiriers, très vieux poiriers greffés, dont on voyait la marque de greffage. Donc un poirier de ce type-là, ça peut vivre jusqu'à 300 ans.
Ah oui, c'est long.
Le dicton, c'est 100 ans pour grandir, 100 ans pour produire et 100 ans pour mourir. Ça ne veut pas dire que ça produit pas avant un siècle, mais ça donne l'idée. Et ça nous a donné l'envie de travailler en participatif, en proposant une carte collaborative où les gens qui rencontreraient un poirier, essentiellement au moment de la floraison, parce que c'est là qu'ils ont une floraison blanche extraordinaire et qu'on peut les distinguer dans des talus ou dans des boisements, maintenant que les boisements ont des fois repris sur les terres agricoles, peuvent nous signaler sur la carte « j'ai vu tel un poirier » ou « je possède un poirier de grande taille », avec souvent des poires astringentes, pas forcément des poires à couteau. Ça nous permet, nous, d'aller après voir sur place et essayer d'en savoir plus. Et on a eu la surprise, avec peu de communication, de voir qu'on a vite eu 50, puis 100, puis 150, puis quasiment 200 points s'afficher sur la carte. Et modestement, on a pu aller en voir quelques-uns, discuter avec les propriétaires, faire des relevés de fruits et de fleurs et de feuilles, et s'apercevoir qu'il y avait potentiellement une diversité génétique. Je t'ai montré tout à l'heure une photo avec quelques poires. On voit bien que même au niveau de la poire, il y a une diversité. Et donc, on a besoin d'aller plus loin. Et donc, on a sollicité, d'une part, faire quelques analyses génétiques pour confirmer est-ce qu'on est en présence d'une population diversifiée. C'est un peu notre question de base. Mmh. Ou est-ce que c'est juste par en vieillissement, il y a des changements de conformité des fruits, etc. Et puis, la deuxième question qui nous préoccupe, c'est ces arbres-là ont été greffés. Donc, il y avait une intention. La personne qui, il y a 150 ans, a pris son greffoir, son greffon, son porte-greffe et a fait cette greffe, ne l'a pas fait par pur plaisir. Ou alors, il nous a fait une sacrée blague qu'on découvre un siècle plus tard. Mais on ne pense pas que c'est ça. L'usage de ces fruits, il est peu à peu oublié. Les propriétaires sont souvent des personnes âgées de 70-80 ans, nous racontant que leur grand-mère a connu cet arbre comme ça, qu'éventuellement elle en faisait du poiré, qui est une sorte de cidre de poire, mais il ne faut pas dire ça, je vais me faire taper sur les doigts par les producteurs de poiré. Donc on a tout à reconstruire, sachant que ces arbres sont en train de, malheureusement, d'accélérer leur disparition. En 2011, sur tous ceux qu'on a collectés, on sait qu'il y en a déjà 9 qui ont disparu. Et principalement par chute naturelle, entre guillemets.
Parce que les arbres sont trop vieux,
parce qu'ils avaient encore, je pense, plus d'années devant eux, mais ça fait plusieurs années qu'on subit des sécheresses estivales et hivernales, ouais. Plus les tempêtes. Et d'après ceux qui connaissent ces arbres, ils ne s'attendaient pas à les voir tomber si vite.
Ah ouais.
Et donc, il va être urgent pour nous d'organiser, d'acquérir un maximum de connaissances, d'organiser leur sauvegarde dans des vergers. Donc, on espère faire appel à peut-être des pépiniéristes engagés qui aurait un petit bout de terrain et là-dessus, le temps qu'on crée des nouveaux vergers conservatoires. Alors peut-être que la génétique va nous dire qu'on les a déjà conservés.
Mm-hmm. Et peut-être que vous allez découvrir des nouvelles variétés.
Peut-être qu'on va découvrir que c'est que des variétés normandes.
Peut-être.
Mais on est quasiment sûr que non. Donc voilà, et comme dit celui qui fabrique ce poiré, on a un trésor, en fait. On a un trésor sous les pieds et on n'est pas capable de le voir.
Okay.
Et donc là, on va justement, notre ambition, c'est d'arriver à démontrer qu'on a une population, qu'il y a des producteurs de poirées aujourd'hui qui veulent en faire un produit de haute qualité. D'ailleurs, le seul producteur de poirées que je connais qui ait remporté 3 fois de suite la médaille d'or au concours agricole, 2021, 2022, 2023, c'est un producteur breton.
D'accord, qui produirait avec des variétés.
Et qui produit avec des variétés arbres... des arbres anciens.
Okay.
Donc pas avec des variétés importées et tout. Mmh. Donc c'est une chance. Alors que l'appellation d'origine qui existe au niveau du poiré, elle est dans le Domfrontais en Normandie.
D'accord.
Donc là, en termes
oui,
de... Je suis plus dans la... En fait, moi, je suis pas pour la création variétale. Enfin, déjà, c'est pas notre... C'est
notre
pas
travail.
Le métier du pôle
ah,
frontier.
Ouais.
Par contre, c'est de tenir à disposition ce potentiel génétique. Si demain, quelqu'un veut s'amuser à faire de la création variétale, on peut lui mettre à disposition quoi, le savoir-faire, ce qu'on sait là-dessus.
Il a de quoi s'amuser avec.
Ah oui, oui, oui. Mais même sans ça, il y a moyen de créer de l'économie. Ouais. Et je ne parle pas de l'économie ménagère avec toutes les foires au greffon où les gens plantent leur arbre et ont des fruits gratuitement là-dessus.
Eh bien, merci, ça nous fait un beau panorama de tout ce que vous faites au pôle fruitier, un beau panorama de l'histoire de la diversité. La diversité pomologique, ça se dit ?
Oui.
Bretonne. Si tu veux bien, est-ce que dans toutes les variétés que tu connais, je vois ton classeur là où il y a ton classeur de description des variétés, est-ce qu'il y en aurait une variété de pommes, de poires, de cerises, de ce que tu veux, qui aurait ta préférence ?
Alors,
ton petit coup de cœur ?
Je vais dire oui, pour jouer le jeu, mais ma variété coup de cœur, elle change toutes les 3 heures.
D'accord.
Donc celle
on de l'avait la... jamais fait celle-là.
Et non, mais il y en a tellement et j'ai parlé de Rosalie l'autre fois. J'allais parler de Malier, mais finalement non. Là, on va dire que c'est la
tout de suite là maintenant. C'est qui ?
Ça va être la poire qui est nommée pour l'instant Trévérien parce qu'elle me tient à cœur parce que je suis originaire de ce village. En tout cas, j'y habite depuis 10 ans. Et je me suis intéressé à recenser les poiriers et j'ai trouvé 3 arbres avec 3 poires différentes. Dont un, quand j'ai montré la poire à un pomologue, m'a dit « Mais ce serait pas la poire Trévérien. » Et il avait déjà fait une fiche dessus. Par contre, il m'a dit aussi qu'elle n'était pas greffée. Donc je me suis empressé de la greffer dans mon jardin. Ce sera déjà ça. J'ai contacté le paysan qui était à côté pour qu'il me le préserve, cet arbre. Parce que à ce jour, c'est le seul arbre connu qui porte cette variété. Okay. Là où a trouvé le pomologue il y a 20 ans cette poire qu'il a appelée Trévérien parce qu'elle n'avait plus de nom, ces arbres
mais
de 200 ans.
Quelqu'un a dû lui dire qu'elle s'appelait Trévérien, c'est ça ?
Il l'a dit, je l'ai appelée Trévérien parce que je l'ai prise à Trévérien.
Ah oui, c'est ça. Okay.
Souvent les noms. Les
mais
noms...
pas sur le même arbre que toi ?
Non, c'est pas le même arbre, okay, mais cet arbre-là, je pense qu'il a disparu.
Ok.
Donc voilà, c'est ma variété qui me plaît.
Chouchoute en plus,
elle a une forme de toupie qui me plaît. Donc voilà ma variété coup de cœur.
Merci. Est-ce que tu aurais aussi une recette à nous conseiller à partir d'une des variétés qui est conservée dans le réseau du pôle fruitier de Bretagne ? Ou quelqu'un qui fait un bon produit à partir de plusieurs variétés ?
Il y a plusieurs spécialités locales qui me viennent en tête. En général, il y avait des boulangers dans les villages qui aimaient faire des chaussons aux pommes. Et souvent, il n'aimait qu'une variété spécifique. Et donc, il demandait à quelques paysans de « Est-ce que tu peux me produire celle-ci ? C'est celle-ci que je veux. »
D'accord.
Et il me semble, les pomologues me corrigeront, mais que par exemple, dans le Finistère, il y a un chausson aux pommes qui était fabriqué spécialement avec la germaine de Brasparts, de la commune de Brasparts.
Dans les montagnes.
Dans les montagnes. Crois. Donc, je ne sais pas quelle était la variété. Et il y a une autre variété rigolote, puisqu'elle a donné lieu à une petite fête, c'est un chausson aux pommes qui s'appelle la bouse de vache.
Ah oui,
oui.
C'est original.
On tourne les pieds dans la terre, qui était justement fabriquée à partir de la rougette d'Ol, dont
tu nous as parlé
dans la région. Voilà. Et il y avait une autre, il y a les chocards, un peu plus du côté de Saint-Brieuc, qui avaient une autre variété. Mais donc, gardons la bouse de vache.
Oui, c'est pas mal. Eh bien, merci beaucoup, Olivier, pour tout cet échange et tout ce que tu nous as fait découvrir sur cette diversité des arbres fruitiers bretons. Je crois que le projet sur les poiriers vénérables, il est toujours en cours.
Oui.
Il est en cours jusqu'à quand ?
Il est en cours jusqu'à 2100.
2100, très bien. Donc, quelle que soit l'époque à laquelle vous écoutiez ce podcast, peut-être en 2080, vous pourrez toujours appeler... Je pense que ce sera ton successeur au pôle fruitier de Bretagne.
J'aurai 64 ans.
Voilà. Waouh, t'es jeune. Donc en fait, si vous voyez ou si vous connaissez un poirier vénérable de Bretagne, ce que vous pouvez faire justement, concrètement, pour la biodiversité, pour la sauver et lui permettre de perdurer, eh bien, si vous connaissez un vieux poirier, même si vous avez un doute, contactez Olivier au pôle fruitier de Bretagne.
Oui.
Plutôt en envoyant un mail.
Il y a un numéro de téléphone, mais c'est souvent difficile de se souvenir, de rappeler.
D'accord.
Voilà. On a un site internet, il y a la carte interactive qui est disponible. Et on viendra vous voir pour en savoir plus.
Super. Eh bien, merci encore. Ben, merci. Et puis, au plaisir de goûter une bouse de vache.
Oui.
Et voilà, vous avez découvert le beau travail du pôle fruitier de Bretagne grâce à Olivier. Alors, est-ce que vous vous rappelez combien il existe à peu près de variétés traditionnelles de pommes en Bretagne? Et est-ce que vous vous rappelez aussi de quels sont les trois événements qui ont conduit au déclin impressionnant de cette biodiversité? Et est-ce que vous savez ce que c'est que la pomologie avec un seul M? Et surtout, est-ce que vous avez déjà goûté du poiré? Et sinon, essayez d'en trouver parce que c'est vraiment délicieux. On vous met aussi quelques liens intéressants en description de l'épisode pour votre culture G. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Et si vous appréciez ce podcast, faites-le connaître et mettez-nous des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver, nous, c'est D'une graine aux autres, notre activité professionnelle à Emma et moi, sur les réseaux sociaux, pour en savoir plus sur la biodiversité cultivée et les semences. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et LinkedIn avec le mot D'une graine aux autres. À bientôt!
Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!